Si donc, le philosophe, dont nous avons tracé le caractère naturel, reçoit l'enseignement qui lui convient, c'est une nécessité qu'en se développant, il parvienne à toutes les vertus. Si au contraire, il tombe sur un sol étranger, y prend racine et s'y développe, c'est une nécessité qu'il produise tous les vices, à moins qu'il ne se trouve un Dieu qui le protège. Crois-tu aussi, comme la multitude, que ceux qui corrompent la jeunesse d'une manière sérieuse soient quelques sophistes simples particuliers? Ne penses-tu pas plutôt que ceux qui le disent sont eux-mêmes les plus grands des sophistes, et qu'ils savent parfaitement former et tourner à leur gré jeunes et vieux, hommes et femmes? Et quand cela, Socrate? C'est lorsqu'assis dans les assemblées politiques, aux tribunaux, au théâtre, dans les camps, et partout où il y a de la foule, ils blâment ou ils approuvent certaines paroles et certaines actions, avec un grand tumulte, toujours outrés, soit qu'ils se récrient, soit qu'ils applaudissent, et que l'écho retentissant des murailles et des lieux d'alentour redouble encore le fracas du blâme et de la louange. Quel effet produiront, dis-moi, de semblables scènes sur le cœur d'un jeune homme? Quelle éducation particulière sera assez forte pour ne pas faire naufrage au milieu de ces flots de louanges et de critiques et ne pas se laisser aller où leur courant l'entraîne? Le jeune homme ne jugera-t-il pas comme cette multitude de ce qui est beau ou honteux? Ne s'attachera-t-il pas aux mêmes choses? Ne lui deviendra-t-il pas semblable? Mon cher Socrate, l'épreuve est irrésistible. Et cependant, je n'ai pas encore parlé de la plus puissante de toutes. Quelle est-elle, Socrate? C'est quand ces habiles maîtres et sophistes, ne pouvant rien par les discours, y ajoutent les actions. Ne sais-tu pas qu'ils ont, contre ceux qui ne se laissent pas persuader, des condamnations infamantes, des amendes, des arrêts de mort? Je le sais. Quel autre sophiste, quels enseignements particuliers pourraient prévaloir contre de pareilles leçons? Je n'en connais point. Non, sans doute, et y prétendre seulement serait grande folie. Il n'y a point, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais d'éducation morale qui puisse aller contre celle dont le peuple dispose. J'entends, mon cher, d'éducation humaine, et bien entendu que j'accepte avec le proverbe ce qui serait divin. Sache bien que si, dans de semblables gouvernements, il se trouve quelque âme qui échappe au naufrage commun et soit ce qu'elle doit être, tu peux dire, sans crainte d'erreur, que c'est une protection divine qui l'a sauvée. Je suis bien de ton avis. Alors tu pourras être encore de mon avis sur ceci. Sur quoi, Socrate? Tous ces simples particuliers, docteurs mercenaires, que le peuple appelle sophistes et qu'il regarde comme ses concurrents et ses rivaux, n'enseignent autre chose que ces opinions mêmes professées par la multitude dans les assemblées nombreuses. Et c'est là ce qu'ils appellent sagesse. On dirait un homme qui, après avoir observé les mouvements instinctifs et les appétits d'un animal grand et robuste, par où il faut l'approcher et par où le toucher, quand et pourquoi il est farouche ou paisible, quel cri il a coutume de pousser en chaque occasion, et quel ton de voix l'apaise ou l'irrite, après avoir recueilli sur tout cela les observations d'une longue expérience, en formerait un corps de science qu'il se mettrait à enseigner, sans pouvoir, au fond, discerner, parmi ses habitudes et ses appétits, ce qui est honnête, bon, juste, de ce qui est honteux, mauvais, injuste, se conformant dans ses jugements à l'instinct du redoutable animal, appelant bien ce qui lui donne de la joie, mal ce qui le courrousse, et, sans faire d'autres distinctions, réduisant le juste et le beau à ce qui satisfait les nécessités de la nature, parce que la différence essentielle qui existe entre le bien et la nécessité, cet homme ne peut la voir ni la montrer aux autres. Certes, Un tel maître ne te semblerait-il pas bien étrange? Oui, Socrate. Eh bien, quelle différence y a-t-il de cet homme à celui qui fait consister la sagesse à connaître le goût et les fantaisies d'une multitude rassemblée au hasard, soit qu'il s'agisse de peinture, de musique ou bien de politique? N'est-il pas évident que, si quelqu'un se présente devant cette assemblée pour lui faire connaître un poème ou un autre ouvrage d'art ou un projet de service public, s'en remettant à la discrétion de la foule, c'est pour lui une nécessité suprême, invincible, de faire ce qu'elle approuvera? Or, as-tu jamais entendu un seul de ceux qui la composent prouver par des raisons qui ne fussent pas très ridicules que ce qu'il juge bon et beau est tel qu'il le juge? Non, jamais, et je n'y compte guère, Socrate. À toutes ces réflexions, joins encore celles-ci. Est-il possible que la multitude admette et conçoive ce principe, que le beau est un et distinct de la foule des choses belles, que toute essence est une et non pas multiple? Cela n'est pas possible, Socrate. Il est impossible, par conséquent, que le peuple soit philosophe. Oui. C'est aussi une nécessité que les philosophes soient l'objet de ces critiques. Oui. Et de celles des sophistes qui, ayant commerce avec le peuple, s'appliquent à lui plaire. Évidemment. Maintenant, quel asile vois-tu où le philosophe puisse se retirer pour y persévérer dans sa profession et y atteindre à tout son développement? Rappelle-toi ce que nous avons dit et réfléchis. Nous sommes convenus que les qualités naturelles du philosophe sont la facilité à apprendre, la mémoire, le courage et la grandeur d'âme. Oui. Dès l'enfance, surtout si les qualités du corps répondent à celles de l'âme, il sera le premier entre tous ses égaux. Sans doute. Lorsqu'il sera parvenu à l'âge mûr, ses parents et ses concitoyens s'empresseront de faire servir ses talents à leurs intérêts. Oui, ils seront à ses pieds, l'accablant de prières et d'hommages. Car, prévoyant qu'il sera puissant un jour, ils voudront s'assurer de lui par avance et lui adresseront des flatteries anticipées. Oui, c'est assez l'ordinaire. Que veux-tu qu'il fasse au milieu de cette foule adulatrice, surtout s'il est né dans un état puissant, s'il est riche, de haute naissance, beau de visage et d'une taille avantageuse? Ne se laissera-t-il pas aller aux plus folles espérances, jusqu'à s'imaginer qu'il sera capable de gouverner les Grecs et les barbares? Son cœur ne s'enflera-t-il pas, rempli par le faste et le vain orgueil qui chassent la raison? Oui, Socrate. Si, tandis qu'il est dans cet état d'exaltation, quelqu'un, s'approchant doucement de lui, lui faisait entendre le langage de la vérité, en disant que la raison lui manque et qu'il en a besoin, mais qu'elle ne s'acquiert qu'au prix des plus grands efforts, crois-tu qu'au milieu de tant d'illusions funestes, il prêta volontiers l'oreille à de pareils discours? Il s'en faut bien, Socrate. Si pourtant, à cause de son heureuse nature et de la sympathie naturelle que ses discours trouvent dans son âme, il les écoutait, se laissait fléchir et entraîner vers la philosophie. Que pensons-nous que fassent alors tous ces flatteurs, persuadés qu'ils vont perdre son appui et son amitié? Discours, actions, ne mettront-ils pas tout en œuvre, et auprès de lui, pour le dissuader, et auprès de l'homme qui s'efforce de le ramener, pour lui en ôter le pouvoir, soit en l'environnant de pièges secrets, soit en le provoquant par des accusations publiques. Discours, actions, ne mettront-ils pas tout en œuvre, et auprès de lui pour le dissuader, et auprès de l'homme qui s'efforce de le ramener, pour lui en ôter le pouvoir, soit en l'environnant de pièges secrets, soit en le provoquant par des accusations publiques? Cela est fort vraisemblable, Socrate. Eh bien, se peut-il encore que notre jeune homme, Devienne philosophe. Je ne vois pas trop comment. Tu vois que j'avais raison de dire que les qualités qui constituent le philosophe, quand elles se développent sous l'influence d'une mauvaise éducation, le détournent en quelque manière de sa destinée naturelle, aussi bien que les richesses et les autres prétendus avantages de cette espèce. Oui, je reconnais que tu avais raison. Telle est, mon cher, la manière dont se corrompt et se perd une nature si bien faite pour la meilleure des professions, et en même temps si rare, comme nous l'avons remarqué. C'est de pareils hommes que sortent, et ceux qui causent les plus grands maux aux États et aux particuliers, et ceux qui leur font le plus de bien lorsqu'ils ont pris une heureuse direction. Mais jamais homme d'un naturel médiocre n'a rien fait de grand, soit en bien, soit en mal, ni comme particulier, ni comme homme public. Oui, rien n'est plus vrai. Ces hommes, nés pour la philosophie, s'en éloignant ainsi, et la laissant solitaire et négligée, mènent une vie contraire à leur nature et à la vérité. Tandis qu'elle, privée de ses protecteurs naturels, demeure exposée à l'invasion d'indignes étrangers qui la déshonorent et lui attirent tous ces reproches dont tu parlais. Que de ses adhérents, les uns ne sont bons à rien et les autres, qui forment le grand nombre, sont des misérables. C'est bien ce qu'on dit.